Alors, je rappelle le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est les questions à éviter lors des entrevues d'embauche. On a déjà fait deux parties sur cette question-là. Je voudrais rappeler, Sandy, j'aimerais que tu nous rappelles les motifs de discrimination énoncés dans la Charte des droits et libertés.
Alors, je vous rappelle que la loi prévoit qu'il est interdit dans un contexte de recrutement de chercher à obtenir des renseignements sur les sujets suivants. Le handicap ou la déficience d'une personne, la race, la couleur ou l'origine ethnique, pas facile à dire, le sexe ou l'orientation sexuelle, la grossesse, on en a parlé beaucoup, la religion, la langue et l'âge, les convictions politiques, la condition sociale ou les antécédents judiciaires d'une personne, à moins que ce soit vraiment requis dans le cadre de l'emploi. Et ce n'est pas à vous à décider si dans le cadre de votre emploi c'est requis, c'est enchâssé déjà dans les lois, les secteurs d'activité où on peut poser ce genre de questions-là. Alors avant de passer des entrevues, assurez-vous à la Commission des droits de la personne que vous pouvez poser ces questions-là.
Donc, les motifs que tu as énumérés, la personne passe une entrevue, puis là on a beaucoup parlé d'entrevue, mais ça pourrait aussi être si lors de l'emploi, il y avait l'employé se rendait compte qu'il est probablement victime de discrimination pour un des sujets énoncés. Mais dans ces cas-là, là, comme lors de l'entrevue d'embauche, et qu'on pense avoir été victime de discrimination par le genre de questions qui nous a été posées, qui ont été un peu trop pointues sur... exemple, la religion, est-ce que vous êtes un musulman pratiquant, est-ce que vous êtes un radical? On peut facilement décoder dans le type de question ce qu'on considère être normal d'être posé en entrevue, puis ce qui devient un peu trop pointu, abusif et trop personnel. Mais dans un cas où c'est ce qui s'est passé, à qui est-ce qu'on peut s'adresser si on pense qu'on est victime de discrimination?
Ça dépend toujours de dans quel secteur d'activité vous travaillez. Je vous donne un exemple. Si vous travaillez dans une entreprise ou un organisme de compétence provinciale, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui assure la promotion puis le respect de la Charte des droits et libertés de la personne. Si vous travaillez dans une entreprise ou un organisme de compétence fédérale, c'est la Commission canadienne des droits de la personne qui va être l'organisme gouvernemental chargé de faire appliquer cette loi-là. Nous, on est habitués de gérer avec ça.
Normes.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est les entreprises ou les organismes de compétences provinciales, c'est la grande majorité des secteurs d'activité. Les compétences provinciales, ça touche les postes.
Non, pardon, tu veux dire les compétences fédérales.
Merci beaucoup,
parce
c'est un lapsus.
On va juste rappeler aux auditeurs, auditrices, que la plupart des employés du Québec sont régis par la Commission des normes du travail.
Oui.
Puis il y en a d'autres qui le sont par le Code du travail lorsque c'est syndiqué.
Exactement.
Mais pour les employés de compétences fédérales, et là, tu vas nous dire quelles sont les entreprises de compétences fédérales.
J'ai choisi de vous nommer ceux-là parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les provinciaux. Fait qu'on va y aller avec le plus court. Si vous travaillez pour les postes, si vous travaillez pour l'armée, si vous travaillez dans le secteur des télécommunications, la radio, la télé, les journaux, vous êtes de compétences fédérales, j'ai de la misère avec ça. Si vous faites du camionnage, donc...
Le transport,
puis vous changez de province ou changez de pays, au-delà de ça, c'est les principaux. Je pense qu'il y en a
fonctionnaire fédéral aussi.
On s'entend.
Pouvez travailler au chômage, à l'assurance chômage, vous êtes un fonctionnaire fédéral régi par le Code canadien du travail.
Puis je rappelle aux gens que si vous êtes dans un organisme ou une entreprise de compétence fédérale, c'est la Commission canadienne des droits de la personne qui est l'organisme.
Qui est le pendant de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse au Québec.
Puis qui va gérer tous les cas où les gens travaillent dans de compétences provinciales. Mais posez-vous pas de questions. Si vous n'êtes pas sûr, appelez à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, puis au pire, ils vont vous référer. Là, l'important, c'est que vous communiquiez avec quelqu'un pour vous orienter.
Il y a cet organisme-là que tu mentionnes beaucoup, mais pour des questions, parce qu'on sait que les personnes, des fois, ne sont pas toujours à l'aise d'appuyer dans des organismes ou vérifier auprès du gouvernement directement. Alors, il y a aussi en Estrie la Ligue des droits et libertés.
Bien, je suis contente que tu en parles.
Qui fait beaucoup toutes ces questions-là de discrimination, qui traite beaucoup ces dossiers-là.
Tout à l'heure, on en parlait, puis c'est ça me rappelle, il m'était venu un petit flash en tête, puis je me disais, faudrait que je dise ça. Vous savez, des fois, ça paraît lourd, parce que si on dépose ce type de plainte-là, il faut quand même être en mesure de peaufiner un dossier, puis dire, voici les motifs pour lesquels je crois que j'ai vécu de la discrimination. C'est quand même à nous à prouver qu'on a été victime, et non pas à l'employeur à prouver qu'il n'a pas fait d'abus. Alors, la Ligue des droits et libertés de l'Estrie, c'est un organisme communautaire qui peut vous aider à monter votre dossier. Et je vous jure, et c'est comme quand les gens viennent à Illusion Emploi pour qu'on monte un dossier avec eux, c'est vraiment aidant d'avoir quelqu'un en soutien pour nous expliquer tous les rouages, puis comment démontrer nos choses, puis qu'est-ce qu'on doit mettre en valeur pour gagner notre cause. Puis c'est un service qui est pour à peu près rien. Là, je pense qu'il est gratuit
c'est
comme
gratuit.
Nous.
Bien, alors, de la même façon que nous, c'est gratuit. Les services sont gratuits. Il arrive que des personnes fassent des dons ou prennent leur carte de membre, mais les services sont gratuits. Puis effectivement, je fais du pouce sur ce que tu dis, Sandy. On en a encore eu la preuve au début de l'été que des gens nous ont dit « C'est merveilleux que vous soyez là parce que nous, dans tout ce cafouillis juridique-là, si on ne vous avait pas découvert, si on n'avait pas été sur votre site pour savoir que vous existiez, si on n'avait pas eu une référence, on n'aurait tout simplement pas déposé la plainte. » Alors, c'est l'accès aussi. Hein? Mm-hmm. On l'a déjà dit, c'est pas toujours évident. Fait que n'ayez pas peur, il y a des groupes en défense et promotion des droits qui peuvent vous aider. Je vous dis pas qu'on n'est pas débordé, je vous dis pas que c'est pas toujours dur. Vous aurez peut-être pas un appel la journée même là, de votre appel pour de l'aide. Maintenant, on va être obligé de fonctionner souvent sur rendez-vous parce qu'on a trop de dossiers à gérer puis qu'on est malheureusement personnel réduit, hein? On n'est pas nous autres dans la mire du gouvernement pour ce qui est du financement.
Mais pour tous les gens, c'est quand même une alternative à se payer un avocat à 100$.
C'est en plein ce qu'on constate. Puis je pense que nos preuves sont faites, là, nos services sont appréciés. Alors, on vous rappelle, la Ligue des droits et des libertés de Sherbrooke existe et elle peut vous aider. Vous pouvez toujours aller sur les sites aussi, hein? Parfois, on n'a pas nécessairement besoin de poser la question. On peut aller sur les sites et vérifier les motifs et dire « Ah oui, c'est vrai, moi aussi. » Alors, donc, ça peut être suffisant comme renseignement. On a énuméré tantôt les cas de discrimination, ces choses-là. Est-ce qu'il peut y avoir des plaintes pour d'autres motifs que ceux dont on a parlé dans notre émission d'aujourd'hui?
En réalité, il n'y a que les motifs de discrimination qu'on a énumérés tout à l'heure qui vont être considérés comme illégaux selon la Charte des droits et libertés de la personne. Si vous subissez autre type de discrimination, vous êtes peut-être victime d'harcèlement. Alors, si vous avez... vous vivez dans votre milieu une discrimination pour un autre motif que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, vous pourriez vous prévaloir de votre... Si vous subissez une discrimination pour un autre motif que ceux que j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous prévaloir de la Charte des droits et libertés. Mais vous êtes peut-être admissible à la protection qu'offre la Loi sur les normes du travail avec les protections en lien avec le harcèlement psychologique au milieu du travail. Et là, la nuance, comprenez-la bien. Si vous êtes victime d'un motif autre que ceux que j'ai nommés, la grossesse, l'âge, la religion, etc., vous ne pouvez pas déposer... OK, je recommence. C'est très, très pas clair ce que je viens de dire là. Si vous êtes victime d'une autre discrimination que celle qu'on a nommée tantôt, vous pouvez vous prévaloir de la Loi sur les normes du travail. Mais vous pouvez aussi vous prévaloir du harcèlement pour les mêmes motifs que ceux nommés dans la Charte. Et ça, c'est une nuance importante. Le harcèlement qui est prévu dans la Loi sur les normes du travail tient compte de tous les motifs de discrimination. Donc, une personne peut vivre du harcèlement dans son milieu de travail et déposer deux plaintes, donc une à la Commission des normes du travail, une à la Commission des droits de la personne, et éventuellement, dans son processus, choisir lequel des deux va finir par aboutir.
OK, tout ça, parce que je t'avoue que tes idées...
Tu me cherchais, hein?
Oui, hein, là, c'est parce qu'on t'a un peu perdu, Sandy. Fait que je vais essayer de résumer.
Ramène-nous ça.
En fait, ce que tu nous dis, c'est si on est victime de discrimination, uniquement de discrimination, et pour les motifs uniquement reconnus par la Charte,
oui,
on peut déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour un motif de discrimination. Mais on peut, si on est victime d'harcèlement, et on le voit fréquemment, nous, dans les dossiers d'harcèlement, être victime d'harcèlement psychologique au travail, mais être aussi victime de discrimination. Notre employeur peut être sur notre dos parce qu'on vient de Colombie ou du Congo, qu'il ne nous a pas aimés, il nous aime toujours pas, puis il va toujours être plus porté à nous discréditer. Et bon, tous les motifs d'harcèlement, on l'a déjà dit, vérifié. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir, dans un cas comme ça, deux motifs de plainte.
Je suis en train de me dire que c'est pour ça qu'on travaille à deux puis qu'on fait l'émission à deux. Moi, je dis quelque chose, puis toi, tu le clarifies. Moi, j'aime ça comme ça. Alors, ce qui est important que les gens sachent, c'est que si jamais ils subissent du harcèlement ou de la discrimination pour un autre motif, Je vous donne un exemple. Votre supérieur vous insulte à répétition devant vos collègues, puis il vous rend la vie difficile, là, vraiment épouvantable au bureau à cause de vos caractéristiques personnelles. Il passe son temps à dire « tes cheveux sont gras, tes cheveux sont... Ah, t'es rouquin, non, il arrête pas de te faire des jokes là-dessus devant tes collègues. » Ou il dit « ouais, un matin, tu t'es mis un chandail qui t'avantage pas, hein, t'as l'air grosse un matin. » C'en est du harcèlement, ça. C'est pas dans les motifs qu'on a nommés tantôt, c'est du harcèlement quand même. Alors, les gens peuvent s'adresser à nous, s'adresser à la commission... des normes de travail et déposer une plainte pour harcèlement.
Voyez-vous, ce qu'on vous dirait à ce stade-ci, c'est si ça devient ambigu, si ça devient complexe, si pour vous ce n'est pas clair, bien écoutez, appelez à nos bureaux, on pourra vérifier avec vous qu'est-ce qu'il y en est. Puis il faut se rappeler qu'on essaie juste ici de sensibiliser les gens à ce qui existe, de développer leur réflexe d'être à l'affût, d'être alerte, d'être vigilant et de prendre la peine d'aller se renseigner ou de vérifier. On a un doute, on va vérifier ce qu'on croit être, est-ce que je suis ou non victime de harcèlement, est-ce que je suis ou non victime de discrimination. N'ayez pas peur. Dans des groupes comme chez nous, on n'est pas là pour porter un jugement et ça ne sera pas un cas de délation auprès de votre employeur, là. Ce qui se fait chez nous, c'est gratuit et c'est confidentiel. Alors, ça vous permet de faire des vérifications et souvent de décider ou non de porter plainte. Ça peut grandement vous aider. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que j'ai oublié de te poser comme question puis que tu voudrais nous ajouter dans l'information?
Une dernière chose avant de passer à la musique. Ce que je voulais aussi mentionner aux auditeurs et aux auditrices, c'est que dans le cadre du travail, là, la charte interdit toute forme de discrimination, mais pas seulement dans le processus d'embauche, là. Dans la loi, on dit aussi qu'il n'y a aucune discrimination acceptable dans les offres d'emploi. Donc, quand on affiche une offre d'emploi, il ne faut pas qu'elle soit discriminatoire.
Ni en cours d'emploi, ce que j'ai dit un peu plus tôt là, dans l'émission. Si à un moment donné, en cours d'emploi, parce que peut-être qu'à l'embauche, ça s'est bien passé, puis l'employeur a semblé d'accord, je ne sais pas, au moins une personne...
Mais des fois, ça peut être un superviseur qui commence à faire de la discrimination.
Un nouvel employé aussi qui arrive dans la boîte, qui n'était pas au courant de ce qui existait, des pratiques, parce que des fois, il y a des mesures d'accommodement qui peuvent être demandées. Hein, on le sait, ça a déjà fait
les manchettes
lorsque certains employeurs ont dû donner un local pour des personnes qui voulaient avoir l'heure de la prière. Bon, ben ça a été correct, ça a été réglé, mais si ça s'était désagrégé en conflit parce qu'un superviseur n'aurait pas voulu l'accorder ou un nouveau directeur aurait dit non, qu'est-ce que c'est que ces pratiques-là? Je suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est oui, il y a l'embauche, mais il y a aussi en cours de route, vous êtes à l'emploi, vous pouvez aussi déposer une plainte.
La discrimination est interdite également dans les clauses d'un contrat de travail. On peut pas dispacter de traitement ou d'une convention collective. Dans l'embauche, on en a parlé. Dans l'apprentissage aussi, on peut pas donner une formation différente à un comme à l'autre sous un motif de discriminatoire. La durée ou de la période de probation, la formation professionnelle, accorder une promotion en vertu établi avec les motifs de discrimination ou refuser une promotion parce qu'on sous les motifs qu'on a nommés tantôt, c'est interdit. La mutation, le déplacement, la mise à pied. Alors, vous voyez que en réalité, c'est tout ce qui concerne le travail. On ne peut pas faire une disparité de traitement ou de la discrimination en vertu des différents motifs qu'on a énumérés deux, trois fois durant l'émission.
Je tiens à rappeler toutefois, Sandy, que oui, notre émission, nous portant surtout sur l'emploi, on a fait ici le focus emploi, mais tu l'as bien dit aussi, si vous êtes victime de discrimination, si vous voulez, parce que vous voulez avoir un appartement puis que vous pensez qu'il vous a été refusé parce que vous êtes une personne avec une grosse famille, que vous êtes à l'aide sociale, que vous êtes une minorité visible, c'est encore un motif de discrimination. Autre que l'emploi pour lequel vous pouvez déposer une plainte. Alors, ça ferait le tour pour cette partie-ci encore de l'émission. Je présume qu'on va aller à la pause musicale.
On s'en va en musique et au retour, une petite conclusion, puis on vous parle, parce que vous savez que l'automne, c'est la saison des assemblées générales pour plusieurs. Alors, on vous parle un petit peu de ce qui se passe à Illusion Emploi. Alors, on se laisse en musique, on revient tout de suite après.
La première fois qu'on m'a mis à l'écart, on m'a condamné pour un vol de char. Un peu plus tard, celui d'un dépanneur et d'un taxi et d'une guitare et d'une caisse de liqueur. La centième fois, c'est écrit au dossier un emprunt sans signature. j'avais un foulard sur la figure. C'était l'été, va donc pendre, on m'a remarqué, va donc chier, y'a pas été long l'été dernier. J'avais tout pénitencier, vaillot, par la pénitence, c'est mon métier. Des coups parfaits, jamais à la bonne heure. Des coups fumants en pays non fumeur. J'avais le don d'avoir les bonnes idées, mais pas celui de les réaliser. J'habite au pénitencier, voyou, pas la pénitence, c'est mon métier. La rage que j'ai s'éteindra pas à la vitesse où je suis parti lent. J'habite au pénitencier, la pénitence, c'est mon métier. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est être réaliste. Je ne suis qu'un grand récidiviste. Pareil à tous les policiers, je vis du crime organisé. J'en ai mangé des tas de sa gueule, faut dire qu'ici je suis pas tout seul. Quand je regarde où je suis rendu, je crois moins dans les coups de pied dans le cul. Je suis rien qu'un gars ben ordinaire qui a manqué l'amour de son père. Je suis rien qu'un gars, faut pas s'en faire, qui a manqué d'amour comme son père. J'habite au pénitencier, voyou, pas la pénitence, c'est mon métier.
Pénitencier,
la pénitence, c'est mon métier.
Pénitencier,
la pénitence, c'est mon métier.
Nous sommes rendus à la conclusion, la dernière partie de notre émission. On s'excuse pour le cafouillis de tout à l'heure. Là. Le métier va rentrer. Hein. On revient de vacances. C'est le retour pour la rentrée. Et je pense qu'on était moins habile ou moins à l'aise, mais on va se reprendre certainement. Je vous rappelle que l'émission d'aujourd'hui portait sur les questions invitées lors des entrevues d'embauche. Alors, pour ceux qui auraient manqué l'émission puis qui souhaiteraient pouvoir l'écouter, je vous dirais que nos émissions sont disponibles sur notre site Internet. Nous avons un blog. Alors, il est possible de réécouter les émissions, celle-ci, et d'autres émissions qui pourraient vous intéresser. Vous avez juste à les consulter. Cependant, laissez-nous un délai. Là. L'émission d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement mise sur notre blog demain. Il y a quand même un délai là, qu'on doit respecter. Mais il y aura quand même d'autres émissions. On a fait des très bonnes émissions. Vous pouvez aller consulter. Alors, pour ce volet-là, je vous rappellerai tout de suite en ce moment-ci nos coordonnées. Notre site Internet, c'est www.illusionemploi.org. Si vous pouvez aussi consulter nos capsules d'information. On a nos normes du mois qu'on retrouve là, notre journal. Il y a plusieurs éléments d'information. Les sites pour vous envoyer à la commission des normes du travail, ces choses-là. Nous avons aussi un courriel. Alors, si vous avez des questions et que vous voulez vérifier avec nous, vous pouvez nous envoyer un courriel. Notre adresse courriel, c'est illusion@aide-internet.org. Nos coordonnées, finalement, c'est le 187 rue Laurier, le local 214 et le local 216. Numéro de téléphone 569-9993. Je vous disais préalablement dans l'émission que si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement ou d'une rencontre pour vérifier des choses, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Mais à ce moment-là, maintenant, parce qu'on a eu beaucoup trop de demandes et qu'on fonctionne à personnel réduit, vous devez prendre un rendez-vous au préalable pour avoir un rendez-vous chez nous pour vérifier lors du dépôt d'une plainte ou l'intention d'une plainte, du dépôt d'une plainte, pardon.
Manon, c'est l'Assemblée générale annuelle qui s'en vient pour Illusion Emploi. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler la date si les gens sont intéressés à en faire partie?
Oui. En fait, notre Assemblée, comme tu l'as dit tantôt, les assemblées, c'est pour beaucoup de groupes, c'est à l'automne. Alors, nous, la date qui a été décidée et retenue, c'est lundi, le 26 septembre. C'est dans le centre communautaire où on a nos bureaux. Alors, je rappelle l'adresse 187 rue Laurier. La réunion va se faire à la salle Alphonse Desjardins, la grande salle en bas. Et cette année, dans le cadre de notre Assemblée générale, on va présenter des axes prioritaires. Illusion présente toujours des axes prioritaires à ses membres, qui sont souvent conjoncturels à un événement là, d'actualité. En fait, pour vous donner un exemple, l'année passée, on avait 4 axes prioritaires, mais celui sur lequel on a tabletté beaucoup, c'est le harcèlement psychologique. On était en campagne sur le harcèlement psychologique. On va être d'ailleurs en phase 2 de la campagne à l'automne. Mais il y a un incontournable qu'on a vu se profiler au fil des ans, c'est toute la question de la migration économique. Ce que j'entends par migration économique, on a vraiment choisi ce terme-là parce qu'au début, on parlait beaucoup du travail migrant. Et en réflexion, en rencontre avec les membres du conseil d'administration, on s'est aperçu que la problématique était plus grande qu'uniquement les travailleurs migrants. Il y avait aussi toute la question de la reconnaissance des diplômes pour les travailleurs immigrants qui viennent ici. Les acquis, ces choses-là, l'accès à l'emploi qui est beaucoup restreint, on le sait. Alors, c'est pour ça qu'Illusion, cette année, va faire la proposition qu'un de ses axes prioritaires porte sur la migration économique. Mais bien sûr, on n'a pas beaucoup d'éléments de comparatif, on ne sait pas grand-chose, même nous, Illusion, l'équipe à la permanence, le conseil d'administration et ses membres, on souhaite se former davantage sur cette question-là. Illusion a déjà été membre d'un comité de travail sur la question du travail migrant auprès de son regroupement national, le Front de défense des non-syndiqués. On a cogité pendant plusieurs années, puis on est arrivé à l'élaboration d'une plateforme de revendication.
Si je ne me trompe pas, touche plusieurs lois. Et c'est ça la particularité du travail migrant ou de toute la question
des travailleurs migrants ou de la migration économique.
Exactement.
C'est qu'il n'y a pas seulement que l'aspect travail, il y a aussi, il y a la loi de l'immigration qui vient interférer, l'accès aux soins de santé. Alors, il y a plus que uniquement la question de l'emploi. Et le Front de défense, quand il a décidé de produire sa plateforme, a eu une bonne réflexion d'élargir sa réflexion. Le Front a travaillé en comité élargi avec 17 autres secteurs, Amnesty International, les centres diocésains, Justice et Foi, des syndicats, et a tenu l'année dernière, en décembre, une commission publique sur le travail migrant, une journée qui, paraît-il, a été exceptionnelle. Malheureusement, j'étais absente pour cause de maladie et j'ai bien regretté. Mais de tout ça a cogité des choses et ils sont arrivés à l'élaboration d'une plateforme. Et cette année, comme je vous ai dit, notre axe prioritaire, un de nos axes prioritaires, ce ne sera pas le seul et l'unique, va porter sur la migration économique. Et on a choisi de faire une activité préalable à l'Assemblée. Donc, les gens sont invités à notre Assemblée, bien sûr. Je rappelle la date, lundi le 26 septembre, au 187 rue Laurier, la salle Alphonse Desjardins. Mais pour précéder l'Assemblée, il va y avoir la présentation de notre plateforme. Et c'est notre porte-parole nationale, Mélanie Gauvin, d'Au bas de l'échelle, qui est aussi la responsable du Front de défense des non-syndiqués, qui va venir faire la présentation de la plateforme. Il y a plusieurs éléments intéressants. Mélanie va pouvoir faire le tour de la question, répondre aux questions, faire un portrait de la problématique, et ça va être sûrement très intéressant. Moi, je ne veux pas vous faire ici le punch, je l'ai quand même lu, le document, j'ai fait quand même partie du comité, fait que je suis partie prenante de beaucoup d'éléments qui ont été amenés là. Mais je crois que les gens, en général, vont apprécier. Ce qu'on souhaite aussi, on fait une invitation toute spéciale, c'est comme je vous ai dit, on va avoir le focus migration économique. Donc, les gens qui ont un intérêt pour cette question-là, mais aussi des personnes qui sont directement interpellées, donc les personnes immigrantes et les personnes migrantes. Je ferai juste une parenthèse pour vous dire ce que c'est un travailleur migrant, là, parce que peut-être les gens entendent le terme et ne savent pas à quoi je fais référence quand je parle de travailleur ou travailleuse migrant. Je vous dirais que c'est beaucoup des gens qui viennent ici dans le cadre de programmes. ceux qu'on a connus le plus ou on a entendu beaucoup parler, c'est beaucoup toute la question des travailleurs saisonniers agricoles. Si vous vous souvenez, la presse a fait un moment donné, il y a 3 ans, des articles là-dessus. Ça a été beaucoup d'actualité quand il y a eu des tentatives de syndicalisation dans des fermes. Alors, bon, ça, c'est un des volets. Il y a un programme spécifique pour les travailleurs agricoles saisonniers. Il y a aussi les aides domestiques qui viennent travailler ici, on appelle ça les aides familiales, qui viennent dans le cadre d'un programme, ils viennent ici travailler, ils ont des obligations de travailler tant de temps pour avoir, au bout de ça, la possibilité d'obtenir leur statut de résident. Alors ça, c'est un autre type de travail, de prestation de travail dans le cadre d'un programme. Il y a aussi les travailleurs peu qualifiés qui peuvent rentrer au Canada par le biais de ce programme-là. Donc, c'était à peu près les secteurs que je viens de vous dire. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un énorme élargissement. L'entonnoir ne cesse de s'agrandir pour faire place à beaucoup de travailleurs qui viennent travailler. Ici, on ne fera pas un jugement, là. Est-ce qu'ils viennent nous voler nos jobs? Pourquoi qu'ils viennent ici? Ce n'est pas ce qu'on dit du tout. Ce qu'on constate, c'est que c'est devenu un incontournable, c'est que c'est en train de changer le milieu du travail et la protection.
Oui, parce qu'une des raisons pour laquelle les employeurs font beaucoup appel à ça, c'est oui, parfois le manque de main-d'œuvre, on veut bien le raccorder dans certains secteurs, mais c'est entre autres parce que la main-d'œuvre est moins chère, est moins dispendieuse peut-être.
Quand tu dis parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, c'était peut-être vrai pour les travailleurs agricoles. Je pense qu'on doit admettre qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont les capacités physiques de travailler au soleil comme ces personnes-là, puis qui iraient travailler à au salaire. On a aussi dit, nous, augmenter le salaire minimum, puis vous allez peut-être voir des gens y aller. C'est oui, actuellement, c'est pas intéressant, parce que le travailleur migrant qui vient travailler ici, dans son pays, il a un très, très, très bas salaire. Mm-hmm. Fait que lui, même si le salaire minimum au Québec n'est pas élevé, pour lui, c'est beaucoup par rapport à ce qu'il gagne dans son pays.
Mais pour la société québécoise, ben cet argent-là ne reste pas au pays. Alors, le peu qui est réinvesti ici, est-ce que c'est un bon investissement? C'est d'autres questions à analyser aussi, mais on fera une émission.
On pourra revenir là-dessus. De toute façon, lors du passage de Mélanie dans la région, on va en profiter pour faire une émission de radio sur cette question-là de la plateforme. Alors, on pourra pousser plus loin. Mais je veux juste revenir sur un élément. C'est quand tu as dit tantôt des emplois pas rémunérés, ben, je te dirais que maintenant, dans l'Ouest canadien, c'est les plateformes pétrolifères. Mmh, alors, je ne crois pas qu'on parle de petits salaires. Cette question-là doit être débattue. Il doit y avoir un meilleur encadrement. Ça ne doit pas devenir une façon de détourner les lois et de baisser les masses salariales pour les employeurs et d'utiliser ou d'abuser. Là. L'esclavagisme a été aboli. Il ne faut pas en trouver des nouvelles versions.
Puis j'imagine que par ça aussi, on contourne un peu la possibilité d'un syndicat dans un milieu de travail. Hein, dans
t'as secteurs. À peu près compris tous les enjeux. Mais je veux surtout rappeler que la fin de l'esclavagisme a été abolie. Et si on considérait certaines conditions dans lesquelles les travailleuses domestiques viennent travailler ici, là, à chaque fois qu'on entend des choses, c'est des visions d'horreur. Alors, il faut avoir une pensée pour ces personnes-là. Il faut analyser le contexte. Il faut avoir une réflexion collective là-dessus. Alors, j'invite les gens à venir à notre assemblée. Je rappelle la date, 26 septembre, précédée d'un 5 à 7. Si jamais ça vous intéresse, je vous prie de confirmer votre présence parce que tout de même, nous, il y a une certaine logistique pour l'organisation de l'événement.
C'est à 5h30.
C'est à 5. Bien, on va vérifier, là. On va avoir une réflexion là-dessus si on le fait à 5h30, mais honnêtement, pour permettre aux gens, c'est plus facile de dire 5h30 que 5h. Je rappelle le numéro de téléphone 569-9993. Si vous êtes intéressé, confirmez votre présence, ça va nous faire plaisir.
Sur ça, on se dit au revoir et à la prochaine. Bye.
Bye.